Je vous propose de lire un verset de la Bible dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je vous propose de réfléchir ce matin sur cette réalité exprimée par ce verset de la Bible, à savoir que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il se peut que, en ce temps de pandémie, nous n'ayons pas envie de réfléchir à la mort, alors que chaque jour des nouvelles nous parviennent, nous communiquent des statistiques, que peut-être nous-mêmes ou nos proches ont été atteints par la maladie, mais que nous le voulions ou non, il faut admettre que Dieu, par cette pandémie, nous amène tous à réfléchir à la mort. Car qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonnée ? De lui viennent les maux et les biens. Dieu, en nous amenant à penser et à réfléchir à la mort, en réalité le fait pour notre bien. Car Dieu nous amène à comprendre que la mort est une réalité. Elle est une réalité terrible, elle est fondamentale pour comprendre le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Mais Dieu, s'il nous amène à réfléchir à la mort, nous amène également à considérer le don qu'il nous fait dans l'Évangile, un don extraordinaire, celui de la vie éternelle, puisque c'est le remède à la mort que Dieu nous propose, le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Nous parlerons bien sûr de ce don gratuit, mais pour le comprendre, et pour comprendre à quel point ce don est précieux, il nous faut, dans un premier temps, réfléchir à ce principe, cette loi incontournable énoncée par la première partie de ce verset, « Le salaire du péché, c'est la mort ». C'est un fait qui est abondamment démontré dans l'Écriture sainte et tout au long des pages de la Bible, que le salaire du péché est effectivement la mort. Adam et Ève, qui ont transgressé l'ordre de Dieu, qui ont mangé de l'arbre au sujet duquel Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », ont été ainsi les premiers à expérimenter la mort, tout d'abord la mort spirituelle, qui se manifeste lorsque Dieu cherche à renouveler cette communion dont Adam et Ève bénéficiaient avec lui dans le jardin. Adam et Ève vont fuir et se cacher. Puis Adam et Ève expérimenteront aussi la mort physique plus tard, réalisant ainsi cette parole « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». Adam et Ève expérimentent donc la mort spirituelle, ils expérimenteront aussi la mort physique, mais le salaire du péché, c'est la mort, et cette réalité se manifeste aussi pour les autres hommes. Tous les hommes, dont Adam était le représentant, le précurseur, expérimenteront en réalité la mort par la suite, selon qu'il est écrit que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous les descendants d'Adam et d'Ève ont fait l'expérience, feront l'expérience que, étant tirés de la poussière, ils devront retourner à la poussière, comme le salaire du péché. Retourner à la poussière en raison de la maladie, de la vieillesse, parfois même de manière violente, la mort intervient, elle est parfois donnée par l'homme. Il n'a pas fallu longtemps après la transgression de nos premiers parents pour que le premier meurtre soit commis sur la terre. C'est Caïn, le fils d'Adam et Ève, qui va tuer, qui va ôter la vie à Abel, son frère. Cette violence ira grandissant. Par exemple, avant le déluge, nous voyons dans les pages de l'Écriture que ce témoignage est rendu au déluge de violence qui remplissait la terre. Il n'en est pas d'ailleurs différemment aujourd'hui. Il est également rendu témoignage à la violence extrême qui régnait dans les villes de Sodome et de Gomorre. Et pour limiter et pour juger de tels comportements, Dieu, lorsqu'il a mis à part un peuple d'entre toutes les nations de la terre, le peuple d'Israël, Dieu par Moïse va traiter alliance avec eux. Nous sommes interpellés par le fait que dans la loi de Moïse, par laquelle Dieu met en garde contre le meurtre, montrant à quel point il attache de l'importance à la vie humaine qu'il a créée à sa ressemblance. Nous sommes interpellés par le fait que dans cette loi de Moïse, Dieu a promulgué la peine de mort. Et dans cette loi de Moïse, nous voyons que certains crimes devaient être punis de mort, le meurtre par exemple, mais aussi le commerce avec les démons, le spiritisme, l'idolâtrie caractérisée, le blasphème, l'adultère, parfois même certaines formes de débauche persistante et de rébellion étaient aussi punies de mort. C'est en grande partie pour cette raison que la loi de Moïse, cette manière dont cette alliance avait été traitée avec Israël du haut du mont Sinaï est appelée dans le Nouveau Testament le ministère de la mort, car la mort y était rendue particulièrement évidente, même par la loi qui instituait le châtiment du crime et du péché. Alors, pour Israël, c'était une nation qui existait alors comme une théocratie, ça restait vrai même lorsque Israël s'est doté d'un roi. Eh bien, nous découvrons aussi dans les pages de la Bible que, dans certaines circonstances, Israël devait se conduire envers les peuples païens pour appliquer une sentence de mort que Dieu avait prononcée. Dans certains cas, lors de l'entrée dans la terre promise, en effet, dans le pays de Canaan, certains peuples qui ne se soumettaient pas devaient être dévoués par interdit, c'est-à-dire passés au fil de l'épée. La raison en était que leur péché avait atteint son comble, leur pratique était abominable, et Dieu avait décrété qu'il les jugerait. Il y a quelque chose de terrible, quelque chose de choquant même pour nous, chrétiens, croyants d'aujourd'hui, à comprendre comment Dieu, qui est un Dieu d'amour, nous avons connu Dieu comme celui qui aime, nous avons expérimenté quelque chose de sa bienveillance, de sa douceur, et Dieu était le même dans l'Ancien Testament, dès les premières pages de la Bible, l'Éternel ne change pas. Et pourtant, voyez, c'est Dieu qui avait donné ses lois, c'est Dieu qui avait aussi donné ses recommandations par rapport à la manière dont certaines nations païennes devaient être traitées. La question terrible de la mort soulève finalement, lorsque nous y réfléchissons, au fond, la question du bien et du mal. Elle met en lumière la gravité du péché, la culpabilité du mal, et elle illustre ce principe que nous avons découvert dans ce verset, Romains chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, bien sûr, Dieu est juste, il ne faut pas confondre les choses, l'Ancien Testament et le Nouveau, les périodes. Vous voyez, la peine de mort, la mise à mort est tout à fait étrangère avec ce qui se déroule dans l'Église de Jésus-Christ, mais avec les principes de l'Évangile. Vous voyez, c'est parfois une confusion avec ces temps qui est à l'origine d'actes terribles commis dans l'histoire, même par des croyants authentiques. On pense à la mort de Michel Servet au temps de Jean Calvin, un homme de foi véritable. Mais la question, Dieu était-il juste? Dieu avait-il raison de condamner le mal? Dieu avait-il raison en prononçant la peine de mort dans la loi de Moïse? Il nous faut répondre oui. Dieu est parfaitement juste, il mesure parfaitement culpabilité du péché et du mal, et ces principes révélés nous parlent aujourd'hui encore, car ils nous parlent de la condamnation qui s'attachera au péché de quiconque lorsque nous comparaîtrons devant Dieu pour lui rendre compte de la manière dont nous aurons mené notre vie. Pour ceux qui n'ont pas leur vie en règle avec Dieu, ils feront l'expérience pour l'éternité que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation, une juste condamnation. Tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il est donc important pour nous de chercher dans l'Évangile cette possibilité que Dieu nous donne d'être réconciliés avec lui. Car devons savoir maintenant, en considérant Jésus-Christ, qu'il est venu pour nous sauver de la mort. Et pour mesurer la valeur du don de Jésus-Christ, bien, il nous faut dans un premier temps prendre conscience que Jésus, pendant son ministère terrestre, nous a montré qu'il est venu sauver l'homme de la mort. Vous voyez, la loi, y compris les préceptes que nous avons considérés, étaient parfaites en tant que règle morale. La loi de Dieu était parfaite. Mais elle n'a pourtant paradoxalement rien amené à la perfection. Pourquoi? Bien à cause du mal qui se trouve dans le cœur de l'homme. Et lorsque Jésus paraît, lorsque Jésus exerce son ministère terrestre, bien nous découvrons que là où il y aurait dû, là où il y aurait pu y avoir la mort, la présence de Jésus-Christ fait en sorte que cette sentence ne s'exécutera pas. On pense par exemple à cet épisode de l'Évangile où les disciples, passant par un lieu en Samarie où on ne veut pas recevoir le Christ, les disciples, particulièrement Jacques et Jean, demandent à Jésus: « Veux-tu que nous demandions à ce que le feu du ciel s'abatte sur ces Samaritains qui n'ont pas voulu te recevoir ?» Et cela n'arrivera pas. Jésus-Christ va s'adresser à ses disciples en leur disant: « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » On pense à cette femme adultère, surprise en flagrant délit par des hommes religieux qui souhaitent prendre Jésus-Christ au piège de ses propres paroles et lui amènent, seul. On lui posait cette question: « Moïse, dans la loi, nous a commandé de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Le Christ va renvoyer ces hommes à leur conscience en disant que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus-Christ montrera ainsi la limite de la loi, montrant que ceux qui voulaient être ses bourreaux étaient corrompus par le péché aussi, au même titre que la femme qu'il s'apprêtait à lapider. Elle ne mourra pas. Personne ne t'a-t-il condamné ? Et cette femme tremblante dira: « Non, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Puis même cet acte de Pierre qui nous est rapporté dans l'Évangile, alors qu'on vient arrêter, on vient se saisir de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané, Pierre, ce disciple impétueux, va sortir son épée et la diriger contre le serviteur du souverain sacrificateur, Malchus. Il lui en portera d'ailleurs l'oreille. Cet homme ne mourra pas. Jésus, qui va guérir cette oreille arrachée par l'épée, va s'adresser au contraire à son disciple en lui disant: « Remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus-Christ, qui enfin, tout au long des pages de l'Évangile, manifeste sa puissance et sa compassion en rendant la vie à plusieurs de ceux qui, sous le coup de la malédiction universelle qui résulte du péché, étaient morts. On pense à la fille de Jaïrus, ce chef de synagogue que Jésus va ressusciter, le fils de la veuve de Naïn, cet enfant unique que l'on portait pour l'ensevelir et à qui Jésus va rendre la vie, à Lazare, cet ami de Jésus, dont la famille pleurait amèrement lorsque le Seigneur est arrivé et lui a rendu la vie, et a parlé au mort qui est sorti plein de vie. La présence de Jésus-Christ manifeste le fait qu'il vient nous sauver de la mort. Et bien sûr, ce fait nous amène à considérer, c'est le plus important, la croix de Jésus-Christ. Car ce qui a rendu possible le ministère de Jésus, ce qui a rendu possible ces actes que nous avons passés en revue, bien c'est la mort de Jésus-Christ lui-même sur la croix de Golgotha. Il nous faut prendre conscience que ce qui a rendu possible l'annulation pour nous, pécheurs, de la condamnation que la loi de Dieu elle-même prononçait justement sur nous, bien c'est le fait que cette condamnation a été portée. Que la justice de la loi de Dieu, y compris ce principe, le salaire du péché, c'est la mort, a été accomplie pour nous, par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous représentait et qui a pris notre place, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Considérons que lorsque le Christ s'adresse à la femme samaritaine en lui disant « Je ne te condamne pas non plus » et qu'il la renvoie libre, « Va et ne pêche plus », le Seigneur savait ce qu'il s'apprêtait à faire quelque temps plus tard en livrant lui-même sa vie à ses bourreaux qui allaient clouer ses mains et ses pieds à la croix du calvaire. Ce même Christ qui disait « J'ai reçu de mon Père le pouvoir de donner ma vie ». Il savait qu'il était l'agneau de Dieu, celui qui devait être offert en sacrifice, celui qui ôte le péché du monde. Arrêtons-nous un instant pour considérer l'amour de Dieu manifesté à la croix. Ce Dieu qui, par la loi, révèle la gravité du mal et sa colère contre le mal. Celui qui prononçait contre le péché une sentence de mort, révèle à présent son amour, en donnant, en livrant à la mort ce qu'il a de plus cher, son propre Fils. L'amour de Dieu, est-il écrit, a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous vivions par lui. Jésus-Christ qui, en tant que seconde personne de la Trinité, étant parfaitement Dieu lui-même et l'auteur de la loi, Jésus-Christ qui se soumet à cette loi et se livre lui-même sa vie pour nous sauver, pour prendre notre place, il faut l'aide de Dieu pour comprendre toute la portée de ce qui s'est passé, de ces choses. Ah, que Dieu illumine les yeux de notre cœur, qu'il éclaire notre intelligence pour que nous mesurions l'amour de Dieu et la valeur du sacrifice de Jésus au calvaire. Jésus est venu pour nous représenter, comme Adam, dans le jardin d'Éden, représentait l'humanité tout entière. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans l'Écriture, est appelé le deuxième homme, car il n'y a eu, en effet, que deux hommes qui se sont trouvés dans cette position de représenter l'humanité, de nous représenter. C'est encore pourquoi, dans le même endroit de l'Écriture, le Christ est appelé le dernier Adam, car il n'y a eu en tout et pour tout, et il n'y aura en tout et pour tout que deux hommes qui représenteront devant Dieu l'humanité, nous représenterons. Jésus-Christ, en tant que notre représentant, s'est parfaitement soumis à la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Il s'est soumis à la loi, et c'est pour nous qu'il l'a fait. Jésus-Christ, qui existait de toute éternité en tant que Dieu, n'avait nul besoin de le faire pour lui-même, puisqu'il est parfait, il est divin. Jésus s'est soumis non seulement aux cérémonies de la loi. Il ne s'est pas seulement soumis à la loi morale pendant sa vie, mais parce qu'il nous représentait, il s'est aussi soumis à la condamnation de la loi. Il s'est livré à la mort, il a subi la condamnation de nos péchés, nous représentant, il s'est livré à la mort de la croix pour porter nos péchés sur lui. Il les a portés en son corps sur le bois. Et en ce faisant, voyez, l'Évangile nous révèle que Jésus-Christ nous a mis à mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est écrit que nous avons été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Et encore, dans l'épître de Paul aux Colossiens, nous lisons que nous sommes morts dans la mesure où par la foi nous acceptons de placer notre confiance dans ce sacrifice que Jésus a accompli pour chacun de nous. Et les conséquences de cette union à Jésus-Christ pour le croyant, celui qui place sa foi, sa confiance en lui, bien, c'est tout d'abord la libération de la condamnation du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Nous trouvons en lui, par la foi en lui, délivré de la colère de Dieu. Nous pouvons bénéficier de la faveur de Dieu le Père. Quel bonheur, quel changement! Cette mort, salaire du péché, parce que Jésus l'a subi sur lui-même, nous n'avons plus à la subir, dans la mesure où nous croyons en ce qu'il est, en ce qu'il a fait. Et deuxième conséquence, c'est que nous sommes délivrés non pas seulement de la condamnation du péché, mais encore de son pouvoir. Il en a été question dimanche dernier. Le Christ déclare lui-même à ses auditeurs dans l'évangile de Jean, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Le salaire du péché, c'est la mort, c'est un principe démontré par toutes les pages de l'Écriture, mais le don gratuit de Dieu, cher auditeur, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une réconciliation avec le Père, pour ce temps et pour toute l'éternité, c'est la vie éternelle. En le ressuscitant d'entre les morts, Dieu le Père a en effet démontré la réalité de la vie dans l'au-delà, d'une vie éternelle, mais aussi de la réconciliation éternelle des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ avec le Dieu Tout-Puissant. Si vous l'aviez goûté, bien rendez grâce à Dieu, demeurons conscients que c'est à Jésus-Christ seul que nous devons notre délivrance de la mort et demeurons attachés à sa grâce. Si quelqu'un n'avait pas expérimenté, n'avait pas reçu ce don précieux, alors, cher auditeur, prenez conscience que Jésus vous a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour vous. Cette mort qui vous angoisse, à laquelle vous pensez parfois, eh bien vous pouvez en être sauvé. Celui qui croit en moi, dit le Christ, a la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Prions. Merci notre bon et tendre Père céleste de nous avoir tant aimés que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, ton Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prions pour que, au travers ces quelques réflexions sur un sujet si solennel, qui nous interpelle parfois tellement dans notre conscience, dans nos pensées, tu nous permettes de comprendre quel est l'amour que tu nous as porté en livrant Jésus-Christ, quel est l'amour que Jésus-Christ lui-même nous apporter en se livrant lui-même, se dépouillant de tout, en s'humiliant, en s'abaissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Croyons que, à cause de cela, tu l'as élevé, tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, que toutes choses lui sont soumises, qu'il parle du haut des cieux. Et nous prions pour que, alors que nous méditons l'Écriture sainte, nous entendions sa voix nous appeler au pardon de nos fautes, à la paix de Dieu, à la vie éternelle et à cette espérance qui ne trompe pas. Que ton nom soit béni, Seigneur, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.